comprendrez pourquoi, à partir de n'importe quelle identité de n'importe quel peuple, on peut acquérir cette identité hébraïque. Il s'agit chaque fois de quelqu'un qui était Abraham et qui devient Abraham. Vous savez d'ailleurs que la règle de la halakha est de donner le nom d'Abraham, de fils d'Abraham, à quiconque qui vient de n'importe quelle nation et se convertit à l'identité israélienne. C'est ce passage d'Abraham en Abraham. Bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, rapidement.
Il y a un mot que tu n'as pas dit et qui me paraît imposé là. Quand les lois de la nature sont sublimées, en quelque sorte dépassées, ça s'appelle le miracle. Alors, est-ce que le passage de la mer Rouge, c'est justement les lois de la nature qui sont sublimées? Et à ce moment-là, les païens ont au contraire une connaissance immédiate du miracle, puisque la croyance dans la puissance de Jupiter, ou de... c'est justement le miracle presque au quotidien. Alors, où est la différence entre ces deux modes de pensée?
Très bien. D'ailleurs, malgré les apparences, nous sommes en plein dans le sujet.
Oui.
Malgré les apparences. Parce qu'apparemment, ton vocabulaire était différent, mais pas du tout.
Bien sûr.
Justement. Et c'est pourquoi le mot de foi ne va être employé la deuxième fois dans le récit biblique qu'à propos du passage de la mer Rouge. On va attendre jusque-là. Vous voyez ce que je veux dire, okay? La foi d'Abraham dont nous sommes en train de parler commence là, au temps d'Abraham. Mais il ne s'agit pas du tout de ce type de miracle, c'est-à-dire de miracle magique. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit de la réalisation d'une histoire, d'un projet humain, où le miracle n'est pas tellement qu'il y a un événement contre les lois de la nature, mais un événement de dépassement pour autre chose. J'ai bien conscience de m'exprimer très mal dans cette phrase.
Le miracle, c'est pas de parler à Dieu du fond de soi-même à ce moment-là.
C'est autre chose, ça c'est la prière. Ça c'est la prière. Voilà, le mot que j'avais pas employé. Le mot que j'avais pas employé, c'est le mot de miracle. Mais il est bien évident que l'objet de la prière, c'est toujours de demander un miracle. Mais de quelle nature ce miracle? Ce n'est pas tellement que la loi de la nature soit brisée. Ça, c'est l'aspect négatif qui est contre la loi de la nature. C'est le fait que ce qui correspond à l'espérance fondamentale de la créature, d'arriver de plus en plus à un monde vrai, alors que nous ne sommes que encore dans un monde de chaos à évacuer de plus en plus, que ceci, malgré l'invraisemblance de la réalité qui dure si longtemps, finira par advenir. C'est une espérance de, je ne veux pas dire perfection, mais c'est un peu cela, de monde parfait. Et lorsque ça va dans ce sens-là, il y a le miracle dont parle la Bible. Lorsque pour aller jusque-là, il faut détruire un conditionnement naturel, il n'y a que l'aspect magique du miracle, que la loi de la nature est brisée. Mais lorsque la Bible nous raconte des miracles, elle ne raconte pas n'importe quoi. Par exemple, comme je dis souvent, ça me revient en mémoire, je l'avais entendu de M. Bordet, un veau à cinq pattes, ce n'est pas un miracle, c'est un déchet statistique. Et là, ce n'est pas ce genre de miracle que la Torah va nous raconter, ce n'est pas ces miracles magiques, faire un veau à cinq pattes. N'importe quel magicien est capable, si j'ose dire. C'est le fait qu'apparaît, qu'advient dans l'histoire du monde, une réalité de l'homme de plus en plus proche du monde parfait. Pour employer ce terme qui n'est pas hébreu.
C'est pas une idée platonicienne,
c'est l'apparence de l'essence, c'est l'idée... Si vous voulez, le fait qu'on pourrait employer ici le langage platonicien n'empêche que Platon va rester dualiste par rapport à notre monothéisme. C'est-à-dire que le fait que l'essence parfaite se fasse réelle et ne reste pas parfaite en tant qu'essence à contempler. Et là, nous sommes monistes, alors qu'ici, le vocabulaire de Platon resterait encore dualiste. Il y a le monde des essences, et le monde de la réalité qui n'est qu'un monde d'ombre. Mais la foi d'Israël, c'est que cette lumière de l'essence se fasse réelle. On s'approche un peu plus, par cette question aussi, de la notion de monothéisme que j'avais expliqué tout à l'heure. Et l'identité Israël n'a jamais renoncé à cela, que la vérité se fasse réalité.
Dans l'intérieur de chacun.
Non, dans la réalité objective. L'intérieur de chacun, ça ne suffit pas. Ça reste en intention. Mais dans la réalité objective. Et vous voyez, la dimension de messianité est inséparable de cette définition de ce monothéisme-là. Je reviens à l'exemple du passage de la mer Rouge. Le miracle hébreu, dans la mentalité hébraïque, du passage de la mer Rouge, c'est pas tellement que la mer se soit ouverte, Ça, les goïms vont être impressionnés par cela. Les Égyptiens vont être impressionnés par cela. La mer s'est ouverte. Non, c'est que les Hébreux sortent d'Égypte et vont vers leur avenir, à travers le passage de la mer. C'est ça le miracle. C'est que, alors qu'il y avait les lois de la nature devant, l'armée égyptienne derrière, une porte s'est ouverte vers l'avenir, et on avance. La mer est venue Israël, et Israël. Il y a deux mots employés par le vocabulaire biblique pour dire miracle à ce propos.
Et un mot désigne la manière dont les Égyptiens perçoivent l'événement, l'autre mot désigne la manière dont l'Hébreu perçoit l'événement. C'est le sifré, un midrash sur la Torah, qui nous donne ces deux explications. C'est Ot et Mophet.
Ot, ça veut dire, les deux mots veulent dire miracle. Ot, ça veut dire un signe, une signification du perçu. Mophet, c'est l'événement fantastique, fantasmagorique, l'aspect magique de l'événement. Et alors, le midrash dit, c'est Mophet pour les Égyptiens et Ot pour les Hébreux, c'est Ot Bachamari et Mophet Alav. Je ne traduis pas, ça me donne une grande parenthèse. Ah, c'est encore un autre mot, Nes. Mais ici, dans ce cas-là, nous avons ces deux mots. Ot et Mophet. Alors, vous voyez, le païen croit dans ces miracles magiques, mais sa foi est contraire au monothéisme. En ce sens que ça voudrait dire des forces extérieures à la volonté du Dieu unique ont joué quelque part. Revenons dans l'atmosphère hébraïque. Les lois de la nature, c'est l'expression de la volonté du Créateur en tant que Elohim. Et lorsque se produit un miracle, c'est d'une certaine manière une volonté de Dieu plus profonde que sa volonté déjà accomplie qui se dévoile pour l'avenir. Elle s'appelle Hachem, la première s'appelant Elohim. Je vais le dire d'une autre manière. Ça se relie quand même à notre sujet. Quel est au fond, l'explication de ce qu'on appellerait le mystère hébraïque. C'est pas un mystère, c'est un secret. Mais appelons le mystère, si vous voulez, à la manière des goïms lorsqu'ils en parlent. Eh bien, c'est le fait qu'une certaine manière de la créature, une certaine manière d'être, de l'être créature, est capable de deviner les intentions du créateur. Et le créateur dévoile ses intentions à qui a été capable de le deviner. Il faut d'abord être hébreu pour être hébreu. Je sais pas comment vous dire. Je vais distinguer les deux mots. Il faut d'abord être hébreu, capable de cette prophétie, pour que cette prophétie soit donnée. Il n'y a qu'à celui qui peut entendre qu'on parle. Mais donc, il est déjà capable d'entendre cela de par lui-même, d'une certaine manière. Il est capable de deviner ce que Dieu a à dire, alors Dieu le lui dit. Voilà, c'est cela, si vous voulez, l'identité hébraïque d'Abraham. Est-ce que c'est suffisamment clair jusque-là? Et c'est une prétention inouïe, hein, apparaît là un cas particulier de l'histoire des hommes. Nous sommes à posteriori de 3600 ans d'histoire. Alors nous avons une confirmation par la réalité passée, mais imaginons le mérite au début de découvrir le courage de cette foi-là. Au début, les premiers ont eu ce mérite. Pour nous, nous sommes simplement occupés à lutter contre l'inertie qui vient de l'habitude et de l'oubli et de la banalisation. Pour nous, nous devons surtout faire effort de ne pas risquer de hébreu redevenir araméen, si j'ose dire d'Abraham redevenir Abraham, alors que l'effort d'Abraham était tout à fait autre. Il fallait qu'il fasse l'effort d'Abraham de devenant Abraham. C'est clair ce que nous disons. Et pour nous, l'effort, c'est de ne pas oublier ce qui s'est passé. Mais pour Abraham, ça ne s'était pas encore passé. Il fallait oser en avoir une. C'est parce que, d'une certaine manière, donc, Abraham porte cette fécondité que Dieu la lui confirme. Mais il la lui confirme encore à un stade où ce n'est pas évident, ce n'est pas encore vraiment réalisé au niveau d'Abraham. J'essaye de nous remettre avant que Abraham soit devenu Abraham, de telle sorte de comprendre l'importance de ce passage, la Ravo, Hébri, encore une fois, du stade Abraham au stade Abraham. Je crois que là nous sommes en présence d'un fait difficile à définir. Il y a gratuité absolue. Qu'est-ce qui explique qu'Abraham redevient hébreu? C'est-à-dire, dévoile en lui la capacité de l'être hébreu, qui était enfouie, récessif, latente, comme j'ai dit hier. Il n'y a pas d'explication. C'est parce qu'il est ce qu'il est qu'il devient ce qu'il devient. C'est-à-dire, c'est au niveau de l'être, c'est pas au niveau des comportements d'actes. Est-ce que c'est suffisamment clair? Il faut tout simplement prendre acte S'il y a un hébreu dans le monde, c'est Abraham. Et donc, cette histoire ne se passe qu'à travers lui. Et puis, elle se passera à un niveau infinitésimal, au niveau de tout individu, qui soit homme, et qui peut, à son niveau, avoir le même comportement. Alors, chaque fois, on le nommera Abraham. Mais il vient rejoindre cette identité hébraïque d'Abraham. Il y a là, si vous voulez, une sorte de fait absolument gratuit. Abraham n'est pas n'importe qui, mais c'est le fait qu'il soit qui il est qui n'a pas d'explication. Parce que c'est un problème d'existence et non pas de croyance. C'est un problème d'idée, c'est un problème de manière d'être. Nous prenons acte que dans la famille humaine, il y a un cas particulier, l'hébreu. C'est chez l'araméen que l'hébreu va naître. Voilà à peu près. Et pourquoi c'est chez l'araméen que l'hébreu va naître? Parce qu'il renaît. Parce que l'araméen n'est qu'une condensation d'opacité de l'hébreu. C'est un tzimtzum de l'hébreu, Abraham. Alors Abraham redevient Abraham. Je vous renvoie là au Kuzari de Judas Lévi, une fois de plus. Depuis le premier homme, se cherche cette identité authentique du projet du Créateur. Il y a des hauts et des bas, des temps forts et des temps faibles. En fin de compte, le temps fort qui émerge complètement dans l'engendrement, comme point de départ absolu, c'est Abraham. Mais Abraham n'est pas n'importe qui. Il est fils du premier homme, pas dans n'importe quelle lignée, dans la lignée où s'engendre le projet du Créateur de la façon la plus centrale. Et il n'y a pas à expliquer cela. Il faut le découvrir et en prendre acte. Il y a une manière d'homme, d'être homme, qui traverse l'histoire des hommes, c'est cette manière qui s'appelle Abraham. Alors là, nous sommes sur un point précis, avec deux stades. Il faut arriver à se surhausser du stade Abraham au niveau Abraham. Et d'une certaine manière, ce en quoi il fallait être capable de croire, c'est beaucoup plus que d'un miracle. C'est que l'inouï soit possible. Quoi l'inouï? Et là, nous allons retrouver dans l'humour hébreu. Okay? Quoi l'inouï? Que le monde soit normal. C'est ça qui est inouï. Voilà ce en quoi il espère. Que le monde soit normal. Et alors, il espère de plus en plus. Est-ce que c'est clair? Vous voyez que cette foi n'a rien de mystérieux. Le mystère, c'est qu'il y a des hommes pour la vie. Oui, vous avez une autre question?
Les questions de l'Abraham ne parlent de la matérialité de chaque idée de la conception.
Répétez la question. Oui, là encore, vous employez un mot que je n'ai pas employé. L'élection. Hein? Mais vous voyez que, je vais essayer de l'atteindre par le point suivant. Là, nous avons une différence radicale. Je pense y revenir mardi soir, lorsque nous parlerons avec le père du Puy. La différence radicale entre, et je ne sais pas si ce soir-là, le père du Puy, mais enfin, on s'en expliquera avec lui, exprimera vraiment la position chrétienne, ou une position chrétienne déjà un peu judaïsante à travers le père Dupuis. Je ne sais pas exactement, on le verra ce soir-là. C'est que, pour la position chrétienne classique, disons, il y a un choix gratuit, dans le sens de grâce absolue, Dieu a décidé de sauver l'humanité en commençant par quelqu'un, il choisit Abraham, comme j'exagère un peu, comme si il pêche à la ligne, et bien ça sera celui-là. Et à partir de là, on commence. C'est un peu la position un peu plus protestante que catholique, enfin chez les catholiques surtout janséniste, mais il y a ce courant-là dans la conscience chrétienne. Et ce commencement à partir d'Abraham, eh bien, il est de l'ordre de la grâce absolue. Il n'y a pas de raison. Et je crois pouvoir comprendre pourquoi le chrétien pense comme cela. Parce qu'il n'est pas hébreu. Parce qu'il ne peut pas réaliser cette manière d'être qui consiste à être l'hébreu, et que c'est pour cette raison que Dieu a choisi un hébreu. Et que c'est l'hébreu qui l'a choisi. Je veux dire qu'Abraham est bien un commencement, mais pas n'importe qui. Comme j'ai dit tout à l'heure, il est fils de, c'est pas n'importe qui que Dieu a choisi. Il a choisi que celui qui était choisissable. Et il y a des raisons pour cela. Il a attendu que quelqu'un soit choisissable, si j'ose dire. Et c'est pourquoi la Torah nous raconte l'histoire d'Abraham avec une préface qui commence au premier homme. Et elle nous dit, voilà qui est Abraham. Premièrement, il y a eu Adam, et ensuite, et à travers toutes les lignes divergentes, chacune choisissant l'impasse qu'elle s'est choisie, ça passe par la lignée de Shem, de Hever, et on arrive à Terah, le père d'Abraham, et voilà, nous sommes au stade d'Abraham. Abraham n'est pas n'importe qui. Et par conséquent, vous voyez, il faut évacuer de l'expression « l'élection » ce qui pourrait y avoir de gratuité dans ce terme, lorsqu'on l'entend du point de vue de théologie chrétienne parlant de l'élection d'Israël. Il n'y a rien de capricieux dans cette élection. Ce n'est pas n'importe qui a été choisi. C'est une manière d'être et non pas... je crois qu'on pourrait dire comme ça. Pour moi, en tant que juif, ça m'est très difficile de comprendre l'attitude du chrétien devant cette notion. J'essaie de la comprendre intellectuellement. Je n'arrive pas à la réaliser. Mais je comprends très bien que le chrétien, inversement, ne puisse pas réaliser l'attitude juive. C'est-à-dire que nous savons par mémoire quelles sont ces raisons pour lesquelles Abraham a été choisi. C'est parce qu'il porte en lui la lignée des engendrements de cette foi dans le Fils de l'homme. Et voilà donc pour ce problème de l'élection. Ce n'est pas n'importe qui que Dieu a choisi. Et nous sommes en pleine période d'élection, c'est électorale. Pardon ?
De toute façon, ce n'est pas n'importe qui quand tu as choisi Noé.
Exactement. Ce n'est
pas n'importe qui.
Absolument. Il y a une identité qui est bien précise. J'ai beaucoup insisté peut-être un peu trop hier soir en disant qu'il y avait un lien absolu entre le contenu de ce que la Bible dit et l'hébreu à qui elle s'adresse. Je voudrais un peu revenir sur ce point quand même, du point de vue de l'étude exégétique. Il faut ajouter tout de suite, l'exemple d'Abraham nous montre que n'importe qui peut devenir hébreu. Il suffit, il n'y a aucune exclusivisme a priori, et il suffit d'être araméen. Alors on peut devenir hébreu. Vous voyez, il y a des étapes. De la manière suivante, du point de vue de l'étude exégétique, je le répète presque à chaque séminaire, mais ça me semble très important. Ce texte que nous étudions dit des choses différentes d'après le lecteur. Mais quand je dis d'après le lecteur, de quel subjectivisme peut-il s'agir? Pas n'importe lequel. Je reprends l'histoire des grandes traditions bibliques. Vous voyez, si c'est un Européen qui lit ce texte dans sa langue propre et pas en hébreu, il apparaît le christianisme. Si c'est un oriental, un sémite non hébreu, qui lit ce texte dans sa langue propre, qui n'est pas l'hébreu, il apparaît l'islam. Mais prenons les choses un peu plus en détail, au microscope. Si c'est un slave qui lit ce texte, c'est la religion chrétienne orthodoxe. Si c'est un latin, c'est la religion chrétienne catholique. Si c'est un anglo-saxon, c'est la religion chrétienne protestante. Et on pourrait croire que ces grandes églises sont divisées sur des problèmes intellectuels, théoriques, de catéchisme, de croyance, pas du tout. Ils sont divisés dans leur division existentielle de manière d'être homme. Et ça va ensemble. C'est une manière d'être homme qui consiste à être anglo-saxon. Il n'y a rien de péjoratif. Hein? Et on peut se féliciter d'être ce que l'on est, mais il n'y a rien de péjoratif pour les autres. Dans un bouquet, chaque fleur est ce qu'elle est. Chacun préfère sa manière d'être fleur. Mais respire le parfum des autres. Voilà ce que je vais expliquer. C'est parce que les anglo-saxons sont des anglo-saxons que leur théologie a été protestante et pas l'inverse. Bien sûr, il y a des latins protestants, mais comme le phénomène humain est paradoxal, alors vous pouvez avoir des options paradoxales dans le phénomène humain. Par exemple, imaginez l'idée d'un espagnol protestant. Ça marche pas. Ça existe quand même, mais parce que les Espagnols sont pleins d'humour, c'est un autre problème. Parce que normalement, l'Espagnol, c'est catholique. Mais ce n'est pas une banalité que je veux dire là. C'est-à-dire que la lecture propre à leur identité, c'est la lecture catholique, ce n'est pas la lecture protestante. Ou bien imaginez, je ne sais pas moi, un Irlandais catholique. Alors il en résulte un conflit énorme dans l'Empire britannique. Par exemple. Oui, qu'est-ce que vous dites? Alors attendez, je voulais ajouter, et c'est quand un juif lit la Bible en hébreu que le judaïsme apparaît. Et par conséquent, vous comprenez que les disputations théologiques entre différentes lectures de la Bible n'ont aucun sens. La grande différence, c'est que l'un est goy et l'autre ne l'est pas. C'est ça la différence. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ça passe pas d'abord au niveau des idées, les idées sont secondes, elles procèdent de la manière d'être. Un hébreu entend cela comme ça. Un non-hébreu entend cela comme il l'entend. Shema Israël, c'est pas pour rien que c'est comme ça. Quel? Vous étiez là hier soir? Non. Alors, je comprends votre question. Alors, c'est relié.
Hier, un ami chrétien était là et il a eu une question dans le texte.
Il a
Là, il était extrêmement surpris à propos de la
araméen, parce qu'il a cru, vous voyez, que c'est la langue du Christ, la grande langue importante, et il est aussi des enfants. Donc, il trouvait que c'était en fait la langue qui était sortie Abraham comme langue morte, en fait.
Mais c'est tout simplement qu'il ne connaissait pas l'histoire. Parce que s'il connaissait l'histoire de son propre Italie, il saurait effectivement que Abraham est sorti d'une famille araméenne, Jacob aussi, Arabie. Abraham a décroché le feu. Et il arrive que les Juifs redeviennent les Araméens des Hébreux. Mais précisément, c'est cela. C'est un Hébreu devenu Araméen de son temps. Alors donc, voilà, c'est ça que je voulais expliquer. C'est-à-dire, l'identité hébraïque, lorsqu'elle est en symbiose avec une civilisation donnée, devient l'identité araméenne. Est-ce que c'est clair? Bon, là, s'ouvre un problème extrêmement vaste chez les commentateurs de la dignité réciproque de l'hébreu et de l'araméen comme langue véhiculant la révélation et de la place particulière de l'araméen parmi tous les autres langages humains. L'araméen, c'est pas l'hébreu, mais c'est pas non plus n'importe quelle langue. C'est, si vous voulez, un exemple de yiddish exceptionnel, d'un yiddish qui a été une fois parlé par tout le peuple hébreu à la fois. Alors que nos yiddish contemporains ne sont que des yiddish tribaux, partiels. Okay? Vous comprenez ce que je veux dire? Et alors c'est cela. Est-ce que vous avez été frappé par cela? L'interpellation à Abraham l'araméen, c'est pour lui dire « mets fin à ta diaspora » et recommence l'identité hébraïque. C'est extrêmement clair, extrêmement frappant. Voilà comment commence l'histoire d'Abraham. Okay? Est-ce que c'est clair? C'est « lech lecha » et « ressuscite en hébreu », si j'ose dire.
C'est valable dans tous les temps.
C'est valable dans les temps exceptionnels de la fournaise d'Urkazdi. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous étiez là hier soir, qu'est-ce que le Midrash nous dit, hein? D'où Abraham est sorti en sortant d'Urkazdi, des fours crématoires d'Urkazdi. Et nous sommes contemporains d'un événement analogue. Ça peut être théoriquement valable dans tous les temps, mais c'est surtout dans ces temps-là qu'Abraham sort de Abraham. Bien, est-ce que c'est suffisamment clair? Alors, ta question.
Premièrement, à propos, j'ai la question de même qui vient hier soir.
Oui.
Qui vous demandait comment on disait en hébreu le mot universel. Et d'après notre exposé, j'aurais pu répondre hybride. Or, j'ai été surprise de vous entendre dire Ben Adam.
J'ai cité le Talmud. Effectivement, si nous avions à citer la Bible, alors il faudrait citer Jonas, Uri, Anochi. Je ne voulais pas entrer là-dedans parce que M. Zrien avait fait une erreur de citation. Il a dit « Ish, Ivri ». Je ne voulais pas entrer dans une polémique de ce genre. Jonas dit « Ivri, Anochi ».« Vachem, Elokai, Shamaim, Elokai ». Bien, effectivement, mais il fallait, ça ne suffit pas dire l'hébreu. Ça a l'air pétition de principe ou postulat. Il faut donner le contenu de connotation. Tandis que peut-être en disant « Adam », ça peut être entendu par n'importe quel homme. Ouais, c'est ça la différence.
Bien, oui. Deuxième remarque, c'est un peu d'arabe. En arabe, c'est le monarque linguistique. J'ai bien entendu vous parler de l'arabe et de l'arabe, parce que vous l'entendez. C'est que le chêne compte son orgue. Et Abraham, et Ismaël, en arabe, c'est Ibrahim et Ismaël. Par contre, le chêne vocalique, c'est le même et différent d'hébreu. C'est-à-dire le chêne de Ibrahim qui est fait sur Ismaël.
Ou peut-être Ismaël sur Ibrahim. Oui, mais ça change pas tellement à notre problème. Ce qu'il faut c'est retenir, c'est une donnée historique importante. Les Arabes ne descendent pas d'Abraham. Ishmaël est fils d'Abraham et de Hagar l'Égyptienne, selon la tradition biblique. Et Ishmaël a épousé la fille d'un cheikh d'une tribu arabe, c'était la tribu des Coréchites, et c'est pourquoi ils sont devenus ismaélites. C'est-à-dire ils se rattachent à l'identité d'Abraham à travers un demi-hébreu qui serait Ishmaël. En fait, d'après la loi juive, Ishmaël est égyptien, il n'est pas hébreu, puisque sa mère est égyptienne. Okay? Mais vous voyez, il y a donc ici quelque chose à mettre au point. Ceci dit, l'identité arabe, Aïn, Resh, Bet, arabe, est une espèce de permutation, d'approximation de l'identité hébraïque, Ivri, Aïn, Bet, Resh. C'est les mêmes lettres, mais pas dans le même sens. Mais en aucun cas, nous ne voyons, dans le récit biblique en tout cas, que les Arabes descendent d'Abraham, sinon par filiation seconde. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, okay? C'est-à-dire, ils sont ismaélites, mais non pas descendants d'Abraham. Et puis la troisième, oui.
C'était à propos, enfin, le témoignage d'ailleurs à la place du monde, c'est que, au niveau de l'œcuménisme, on parle toujours d'Abraham comme étant le père des croix religieuses. Or, à travers cette chose intermédiaire, on voit donc que c'est au niveau des fils, au niveau de la fraternité des fils, que se pose le problème d'Abraham, puisque suivant qu'on est l'aîné ou suivant qu'on est le suivant, on n'a pas la même vision du père.
Oui, ça dépend qui est la mère, quoi.
Voilà, alors,
exactement. Très bien. Effectivement, ça nous aurons à reprendre dans la semaine. Je crois que c'est une façon de parler, de dire effectivement la fraternité d'Abraham. Le vrai problème, c'est la fraternité des différentes traditions qui se réclament d'Abraham. Il y en a une qui est en filiation directe, c'est la filiation hébraïque, et il y en a deux autres qui sont là, qui ont leur propre insertion, mais n'est pas de la même nature. Bon, vous devinez l'ensemble de problèmes qu'il y a derrière, et je voudrais récapituler tout ça, si vous êtes dans une seule proposition. Okay. Au fond, nous essayons de voir qu'est-ce qu'il y a dans le contenu de l'expression « Abraham l'hébreu ». Et la question qui se poserait aux autres traditions, c'est « Peut-on être fils d'Abraham sans être hébreu ?» Ma réponse est non. Parce que nous lisons la Bible, nous ne lisons pas n'importe quoi d'autre. Vous comprenez le problème. La Bible s'adresse à Abraham l'hébreu. Et alors là, il y aurait une sorte de panique à évacuer. Cette difficulté qui consisterait à dire « mais on ne peut pas devenir hébreu ». C'est faux, on peut devenir hébreu. C'est ça le problème. N'importe qui peut devenir hébreu s'il le peut, théoriquement, je veux dire. Donc il n'y a pas de panique. C'est bien un message universel, mais à travers une tradition universaliste et non pas une tradition universelle qui s'imposerait aux autres. Et il y a place dans la famille d'Abraham pour les autres. Mais le fils d'Abraham, c'est Isaac, et le fils d'Isaac, c'est Jacob, etc. Bien, très rapidement, vous avez noté.
Au sujet du mot Emouna, est-ce qu'elle peut penser que c'est à partir de la sortie d'Égypte, lorsque le peuple juif a dit Vayabino, Vachet, Boaché, Abdou, à ce moment-là, la Torah a été donnée à un peuple qui était devenu comme Abraham?
Oui, oui. L'expérience, ça se rattache à la passage de la mer Rouge, okay, votre verset. L'expérience d'Israël à la sortie d'Égypte, c'est à l'échelle d'une société tout entière, l'expérience d'Abraham à l'échelle d'un individu dans son passé. C'est le même terme qui est arrivé. Je veux dire, il y a notre verset ici, « Ve'emin b'ashem b'ashekarolot tzedaka ». Ensuite, il y a une fois le mot de « Emouna », parce que Moïse vient dire aux Hébreux en Égypte, « C'est le temps de la Géoula, va'yamen Aram, qui pakot pakad Hashem et ben Israël ». Ensuite, au passage de la mer Rouge, votre verset, Vayamin ou Bachem ou Moshe Ardo, et ensuite au pied du Sinaï, à la révélation de la Torah, Vegam Becha Yaminu Leolam. Chapitre 47 du Gourat Hashem du Maharal, vous avez toute cette. C'est bien 47, hein, tout cet enseignement. Bien. Alors, nous allons donc lire le Midrash. Et voilà de quoi il s'agissait dans ces conditionnements naturels pour les phénomènes humains. Qu'Abraham devait sublimer, dépasser, se déconnecter, de telle sorte de pouvoir envisager ce qui lui est dit ici dans cette promesse. Alors on prend depuis Yudbet, vous avez la page 145, okay, sur le verset 5 déjà. Vayotse oto achutza, et Dieu le fit sortir en dehors. Le pshat, je vous ai expliqué de la manière suivante, la lecture directe de la manière suivante. Abraham est chez lui, dans sa tente, quand il a cette révélation. Et lorsque Dieu lui confirme cette capacité de faire qu'Abraham entendait difficilement, alors Dieu le fait sortir en dehors. Rabbi Yoshua de Siknin, Bechem Rabbi Levi. Vous êtes à la première ligne du paragraphe, c'est un enseignement de Rabbi Yoshua de Siknin au nom de Rabbi Levi. Vechi michutz la olam otzio, sheneemar, sheamar akatu. Il le fit sortir en dehors. Quel est ce détail apparemment anecdotique, inutile? Il le fit sortir en dehors, dit le texte. En dehors de quoi? L'a-t-il fait sortir en dehors du monde? La question que pose le Midrash. Est-ce qu'on peut sortir du monde pour que le texte dise il l'a fit sortir en dehors? Vous entendez la question du Midrash. Tu nous dis là, toi, le verset, quelque chose d'impossible. Est-ce qu'on peut sortir en dehors de son conditionnement d'identité, et c'est pourtant de cela dont il est parlé.